Chers sœurs et frères, bonjour encore une fois. On va continuer donc avec ce serment sur les 10 commandements, l'alliance entre le Christ et son Église, le traité de mariage, le contrat de mariage, où l'Église démontre cette fidélité à son Sauveur qui l'a racheté en étant fidèle à cette loi sublime qu'il a révélée et qu'il a mis en nos cœurs et qu'il a écrit en notre esprit. Nous allons continuer donc au chapitre 20 de l'Exode. Nous avons fini deux commandements qui étaient les plus grands, si vous voulez, ou ils sont tous importants. Si on brise un seul commandement, on les brise tous. Vous connaissez bien l'Écriture chez l'apôtre Jacques. Mais ici, on va continuer donc au chapitre 20 de l'Exode, verset 7. Exode, chapitre 20 et verset 7. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » On peut beaucoup dire au sujet de ce commandement. Je sais que la plupart d'entre vous, sinon tous, vous comprenez bien le respect profond qu'on doit avoir au nom des dieux. Le nom des dieux n'est pas un son phonétique, comme il y en a qui prétendent qu'on ne peut prononcer le nom des dieux qu'en hébreu, tel qu'on les prononçait dans les temps où Dieu l'a prononcé devant Moïse. Mais on sait bien que le nom représente l'être lui-même. Et le nom, c'est la personne entière, son caractère. Donc, le nom de Dieu représente, même l'apôtre Paul l'a utilisé dans la langue grecque à Athènes. Vous le savez bien, quand il a donné son serment sur le Dieu inconnu. Oh, vous le connaissez bien l'histoire, il a parlé du Théos, un grec inconnu, il parlait du vrai Dieu, il a utilisé un nom grec, le nom Théos. Donc Dieu permet la traduction de son nom dans d'autres langues. Maintenant, il y a des groupes qui prétendent qu'on ne peut le prononcer que de la façon originale ou originelle. Ce n'est pas le cas. Dieu, il a permis que son nom soit traduit dans les langues du monde, mais qu'on soit reconnu comme l'Éternel, qu'il soit reconnu comme le souverain dans l'univers, et le Père, et puis le Fils comme les rois des rois. Ils ont beaucoup de noms qui représentent leur dignité. Donc, il ne faut pas le prendre en vain, il faut le respecter. Chers amis, on peut beaucoup dire, on n'est pas à l'utiliser légèrement, comme les mendiants ont l'habitude de le faire, n'est-ce pas? Une aumône au nom des dieux. Parfois, si c'est bien pensé, bien articulé, c'est valable. Mais il y en a beaucoup qui abusent ce nom dans des films, dans des expressions. Oh mon, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, mais ils n'y pensent pas. Ils le font comme une imprécation, comme une expression banale, ce qui est une offense à la grandeur, à la majesté de Dieu. On pourrait beaucoup dire encore, mais on va continuer. Il faut être donc très conscient du fait qu'on va utiliser le nom de Dieu, c'est avec le respect et pour tout ce qu'il représente, comme l'Éternel et comme notre Père. Donc, il y a beaucoup à dire, mais on ne va pas prolonger trop le discours là-dessus. On va continuer vers le quatrième commandement. Chapitre 20, verset 8 de l'Exode. Souviens-toi du jour du repos. Bien sûr, souviens-toi parce que Dieu l'avait établi dès le commencement. Il l'a fait pour l'homme, pour Adam, pour ses descendants. Pas pour les Juifs seulement, mais pour tout le genre humain. Et il sera établi pour tous au retour du Christ. Il n'y aura pas de différents jours à garder, chers amis. Donc, vous le savez bien, Dieu l'a établi au chapitre 2 de la Genèse, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alors voici qu'il avait été établi dès le début pour l'homme. Comme le Christ a dit, le sabbat a été fait pour l'homme. C'est l'amour de Dieu qu'il a créé, parce qu'il nous connaît. Il sait que nous sommes de la chair, de la poussière, qu'on se fatigue, qu'on a besoin d'un repos, qu'on a besoin d'un refuge dans le temps. Pas seulement d'un refuge où se cacher du bruit et de l'agitation du monde. Un refuge dans le temps, quand on respecte le sabbat et qu'on le sent venir doucement. Le vendredi soir, on sent qu'on entre dans une autre dimension quand on a la conscience que Dieu a béni cet espace de temps de 24 heures et on sent venir la bénédiction merveilleuse du sabbat comme une expression d'amour du Très-Haut pour ses enfants qui le connaissent. Et ça devient l'une des plus grandes bénédictions de la connaissance du chemin et de la voie des dieux qui mène à la vie éternelle, de garder ce sabbat. Quelle bénédiction! On sait bien que le diable le hait et qu'il va essayer de on l'a déjà démontré au chapitre 20 de l'Apocalypse, verset 4, comment il va forcer les gens à briser ce repos. Donc, chers amis, c'est très important d'avoir ce profond respect pour ce temps qui a été mis à part, sanctifié par Dieu dès le début, fait pour l'homme à cause de son amour. Tout ce que Dieu fait a une motivation d'amour. Et il l'a fait pour nous. Et quand on le respecte, quand on le garde, on sent la tendresse de Dieu descendre sur nous, même le vendredi soir, quand le soleil se couche, quand il disparaît sur l'horizon, on sent la bénédiction qui descend sur la terre de la part de Dieu. Et nous pouvons en jouir ce temps-là, avec une intimité avec le Christ. Donc, comme je vous ai dit, les 10 commandements, c'est l'alliance. L'alliance, c'est le mariage entre le Christ et son épouse. Et le signe où ils s'identifient l'un à l'autre, c'est le sabbat. Vous le connaissez au chapitre 31, verset 12 de l'Exode. Reportez-la, s'il vous plaît, chers sœurs et frères. Et nous voyons que donc, c'est un signe entre le bien-aimé et sa bien-aimée. Ils s'identifient tous les deux, ils se rencontrent d'une façon spéciale, ils ont un rendez-vous chaque semaine, un rendez-vous d'amour que le monde ne connaît pas, que le monde ne jouit pas. Et c'est un privilège énorme, chers sœurs et frères. Donc, au chapitre 31, verset 12, l'Éternel parla à Moïse, c'est l'Exode, chapitre 31, verset 12, et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. » Et ça inclut bien sûr au pluriel les 7 sabbats annuels qui sont parmi les fêtes des dieux, chers sœurs et frères, comme c'est le premier jour de pain sans levain, le dernier jour, le septième jour de pain sans levain, comme c'est le jour de la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui, c'est un sabbat devant l'Éternel, comme c'est le jour des trompettes, comme c'est le jour des expiations. C'est le cinquième sabbat annuel et comme c'est le premier jour de la fête des tabernacles et le huitième jour. Voilà 7 sabbats tout au long de l'année, bien sûr. Des bénédictions énormes qui nous transmettent une connaissance du secret que l'Éternel avait gardé chez lui, même depuis les commencements des temps. Avant les commencements même des temps, il avait ce projet merveilleux de se reproduire lui-même. Et aujourd'hui, nous étudions donc cet aspect de l'alliance qu'il a traité avec ses élus, ceux qui deviendront son épouse pour l'éternité. Et c'est le sabbat, le signe qui les identifie, qui nous identifie. Donc on continue aussi en lisant au verset 14, 31, Exode 31, verset 14. Vous observerez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte. Sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Comme je vous disais, si l'amour, c'est obéir les 10 commandements, c'est l'amour qui nous attire vers Dieu de manière très spéciale ce jour-là, et c'est Dieu lui-même qui met sa présence, et c'est une rencontre d'intimité. C'est pourquoi le jour du sabbat, le peuple, le sacerdoce lévitique, il devait doubler le sacrifice de l'agneau le matin et l'agneau le soir, l'intensifier, et on va le voir ça au chapitre 28 des Nombres. Dieu veut que nous passions plus de temps dans la prière en ce jour-là pour que l'intimité entre le mari et l'épouse s'intensifie peu à peu, au fur et à mesure, et que ça devienne un acte d'amour de garder le sabbat, parce que c'est le moment où on peut avoir plus d'intimité avec le Christ, que quand nous allions dans l'assemblée, il faut que nous ayons passé plus de temps dans la présence de Dieu en ce jour-là, pour être remplis de lui, et que son esprit se manifeste comme des eaux qui coulent, de l'eau vive qui vont faire accroître l'intimité et l'unité de son Église réunie, parce que chacun a offert un double sacrifice d'amour, c'est-à-dire les prières qui nous unissent à Dieu, à notre Seigneur. Mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni des morts. Les enfants d'Israël observeront le sabbat. Nous sommes l'Israël des dieux, qui est composé de ceux qui appartiennent au reste des tribus, de chaque tribu que Dieu a élue comme un petit nombre que Dieu complète avec ceux qui sont venus de l'olivier sauvage et qu'il greffe dans l'olivier d'Israël pour que nous devenions un. De tous les peuples, nous devenons une seule nation. Israël des dieux, dont le sabbat est le signe avec son maître, avec leur maître, en le célébrant eux et leurs descendants comme une alliance perpétuelle. Voilà, une alliance qui identifie le fiancé et la fiancée qui vont se marier pour l'éternité. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Donc ce sabbat, c'est un signe d'une relation très spéciale entre l'époux et l'épouse. Et c'est un moment, c'est un rendez-vous où l'époux vient visiter et l'épouse doit préparer sa maison, préparer et nettoyer pour que l'épouse trouve une ambiance paisible et bien disposée pour le recevoir sa présence de manière spéciale. C'est pourquoi il faut prier pour que Dieu donne de l'harmonie au cœur des familles que Dieu a sanctifiées, pour qu'on ait l'harmonie et la paix pour recevoir le Christ et sa présence le jour du sabbat, qu'on ait la prière en commun, un peu l'étude biblique pour nous mettre en sa présence et le repas où on célèbre que le Christ est là, présent aussi parmi les siens. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé, comme on vient de le lire. Alors voilà, mes chers sœurs et frères, je ne vais pas m'attarder trop en expliquant chaque aspect du sabbat, mais je vais quand même finir de lire le commandement, qui est l'un le plus long, avec le 2e, et ce sont ces deux-là que le diable va utiliser en les changeant pour attaquer l'épouse du Christ, pour la détruire. Il ne pourra pas le faire. Si on est fidèle, on sait qu'on a la garantie de la vie éternelle. Donc au chapitre 20, voyons en lisant de nouveau, et souviens-toi du jour du repos à partir du verset 8, Exode 20, verset 8, pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, comme on l'a vu au chapitre 31, consacré à l'Éternel, ton Dieu. C'est le rendez-vous entre l'époux et l'épouse qui ont une rencontre d'intimité. Et on va voir tout à l'heure comment notre prière doit doubler ce jour-là. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il se reposait. Donc la connaissance du vrai Dieu, du Créateur, pour la vraie connaissance, il est essentiel d'obéir ce jour-là pour qu'on ait cette sagesse que le monde n'a pas, parce qu'il ne garde pas ce jour-là. Il s'est reposé le septième jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Voilà, chers amis. Donc, il est important de se poser la question. Il y a des gens qui se posent la question. Le sabbat, que puis-je faire? Puis-je aller à la plage? Est-ce que je peux regarder un peu la télévision? Est-ce que je peux jouer un peu de golf? Est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je peux faire cela? On vient de lire, c'est un jour consacré à l'Éternel, mais c'est une rencontre d'amour. Donc, la question qu'on doit se poser, ce n'est pas « que puis-je faire le jour du sabbat ? » Qu'est-ce qu'on m'est permis de faire ? Au contraire, quand on est motivé par l'amour, la question qu'on va se poser, c'est « que puis-je faire ?» pour m'approcher plus des dieux en ces jours. Que puis-je faire pour avoir un rapport ou une relation plus intime avec mon Seigneur qui m'a racheté et qui m'a donné ce jour comme un signe entre lui et moi? Quand on a cette attitude, donc on a ce besoin d'utiliser ce temps au maximum pour cultiver ce rapport qui va se prolonger de maintenant pour l'éternité. C'est un acte d'amour comme Dieu l'a eu en nous donnant cette connaissance, cette bénédiction du sabbat. Donc nous, on doit correspondre en cherchant à avoir un rapport plus intime avec lui, en passant plus de temps à la prière, par exemple, qui est représentée au chapitre 28 des Nombres, comme le jour du sabbat, il fallait doubler le sacrifice quotidien qui n'est autre chose que le sacrifice spirituel dont parle l'apôtre Pierre. Par exemple, vous regardez ici l'explication, comment ça s'applique dans la Nouvelle Alliance. Au chapitre 2 de la première épître de Pierre, et verset 4, nous allons voir que ce que nous faisons maintenant comme des sacrificateurs qui se préparent pour son service pendant 1000 ans et après pour l'éternité. Chapitre 2, verset 4 de la première épître de l'apôtre Pierre, chapitre 2, verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. » Bien sûr, le sabbat est bien rejeté par les hommes. Ils ne connaissent pas cette bénédiction et cette intimité merveilleuse qu'on achève avec le Christ quand on l'observe d'après ses instructions. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il dit dans l'Écriture, « Voici, je mets Sion une pierre angulaire. » Donc, on a ce privilège d'offrir des victimes, de sacrifices spirituels. C'est d'offrir, c'est que l'apôtre Paul aussi nous enseigne au chapitre 13 de l'épître des Hébreux, comment pratiquer ce sacrifice spirituel. Et regardons par exemple au chapitre 13, de l'Épître aux Hébreux, nous allons voir, pour compléter les concepts qui nous introduit l'apôtre Pierre, au verset 15, Hébreux, chapitre 13, verset 15. Donc, nous voyons que nous devons offrir des sacrifices spirituels à Dieu ce jour-là, doubler la dose. Chapitre 13, verset 13, verset 15, excusez-moi, Hébreux 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu. Sans cesse, ça veut dire un sacrifice continuel d'après. D'ailleurs, en anglais, c'est comme ça qu'il s'est traduit. Offrons continuellement. Donc, c'est des sacrifices spirituels que nous, comme une maison spirituelle, comme des pierres vivantes, nous offrons et qui nous donnent cette intimité avec le Christ. Donc, je répète, chapitre 13 des Hébreux et verset 15. Par lui, offrons sans cesse. Voilà, c'est un sacrifice continuel. À Dieu, un sacrifice des louanges, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Voilà l'explication. Et voici pourquoi, au chapitre 28 du livre des Nombres, nous voyons comment physiquement Dieu nous explique ou nous montre ce que nous faisons spirituellement maintenant comme des sacrificateurs de Dieu. Chapitre 28, qui appartenant au sacerdoce de Melchizedek, un sacerdoce spirituel qui est composé par des rois et des sacrificateurs. Le Christ était le sacerdoce ou le suprême sacrificateur de Melchizedek, qui était roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. Il a unifié les deux fonctions de royauté et de sacrificateur en lui-même. Et ceux qui sont son épouse maintenant, ils font partie du même sacerdoce. Donc voyons comment, au livre des Nombres, chapitre 28, verset 9, le jour du sabbat, vous offrirez deux agneaux d'un an sans défaut. Donc ce sacrifice continuel qu'on faisait sans cesse, c'était un agneau le matin et un agneau l'après-midi ou le soir à la tombée du jour. Le jour du sabbat, vous offrirez deux agneaux d'un an sans défaut et pour l'offrande, deux dixièmes de fleurs de farine pétries à l'huile avec l'alibation. C'est l'holocauste du sabbat pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et l'alibation. Donc, il fallait ajouter et doubler ce sacrifice. Donc, Dieu, il nous prie, il nous donne ici des instructions. Si nous comprenons cette parole, de passer plus de temps en sa présence, en prière et l'étude, le jour du sabbat avant de venir à l'assemblée pour pouvoir nous présenter tous remplis de sa présence et d'accroître la joie et le fruit de l'esprit qui coule du cœur de chacun des membres du corps de son épouse. Voilà, c'est ce que je voulais mentionner au sujet du sabbat. Il est bien de se relaxer aussi, bien sûr, d'avoir un bon repas le soir, mais un bon petit déjeuner qui nous donne de la bonne énergie, un peu de musique, et de musique qui nous inspire, qui par les fruits nous produit de la joie et de la paix, et puis de s'approcher les uns les autres, de sentir la présence, de la jouir, chers sœurs et frères. Voilà l'approche positive, non pas de nous demander que puis-je faire pour moi-même, mais que puis-je faire pour m'approcher du bien-aimé, de l'époux. Voilà, c'est le signe d'intimité où se reconnaissent l'époux et l'épouse, et le diable, bien sûr, il haït, il hait cela, il veut le détruire, mais il ne pourra jamais le détruire, chers sœurs et frères. Donc, cultivons ce rapport, cette relation merveilleuse et profonde. Utilisons les sabbats au maximum pour jouir de la présence et du rendez-vous avec le bien-aimé. Voilà une approche positive pour le sabbat. Maintenant, on continue de lire les autres commandements de l'alliance entre le Christ et son épouse. Nous continuons au verset 12. Exode, chapitre 20, verset 12. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Voilà, c'est le premier commandement avec une bénédiction, comme l'apôtre Paul le signale clairement, dans Éphésiens chapitre 6, lisons-le, chers sœurs et frères, et c'est très important. Le jeune qui honorent leur père et leur mère, qui les respectent, qui obéissent. Ils sont protégés de beaucoup de maux, chers sœurs et frères. Et je vous ai parlé dans le passé sur la souffrance. Personne n'échappe à la souffrance. Dieu l'utilise pour parfaire, pour perfectionner le caractère de ses enfants. Mais il y a des souffrances qui sont les conséquences du péché. Vous avez écouté aussi des messages que vous ai envoyés là-dessus. Et il y a beaucoup de souffrances, de malheurs qu'on souffre à cause de bêtises, de transgressions. Mais ceux qui obéissent leur père, qui commencent à être fidèles à leurs parents, à leur mère, à leur père, même s'ils ne sont pas dans l'Église, il ne faut pas les aimer plus que Dieu et aller briser la loi de Dieu, comme je viens de vous l'expliquer en expliquant le premier commandement. Bien sûr que non, mais il faut les honorer. Il faut leur donner ce respect. Pour les enfants, quand ils sont jeunes, nous voyons comment l'apôtre Paul l'explique clairement, comme je vous viens de le mentionner dans Éphésiens chapitre 6, verset 1. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. » Bien sûr, s'il y a des parents qui veulent interdire leurs enfants de venir à l'église avec leur mère ou avec leur père, il faut obéir Dieu avant d'obéir les hommes. Il ne faut pas aller briser la loi de Dieu et aimer plus un parent, un père ou une mère que Dieu. Mais en général, c'est rare quand ça arrive. Et ce que Dieu veut, c'est que nous pratiquions cette obéissance et cet honneur, cet respect pour nos parents, pour que nous puissions être bénis, être délivrés de beaucoup de maux sur cette terre. Je le vois chez les enfants qui obéissent et qui respectent leurs parents, qui sont respectueux parce qu'ils connaissent que l'autorité vient des dieux sur eux et qu'ils sont l'image physique d'un dieu qui va les engendrer spirituellement. Voilà, chers sœurs et frères, enfants, Éphésiens 1, verset 1, « Et obéissez vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, car le premier commandement, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Voilà. Ça, c'est pour les enfants. Mais il y a d'autres aspects pour les adultes que parfois, il y en a qui les ignorent ou qui ne les tiennent pas. Souvent, qui ne sont pas assez conscients des obligations que nous avons une fois que nous sommes dans l'âge productif de la vie. Nous avons, quand nous sommes dans cet étage de la vie, nous avons des obligations envers nos parents. Donc, ça ne finit pas quand les enfants deviennent des adultes. Ça continue d'une autre façon. Et ça, c'est très important de le voir parce qu'on vit dans une époque où les gens, ils veulent. Il y a un monde aujourd'hui. Moi, j'ai connu des enfants qui ont abandonné leurs parents dans des maisons de repos, dans des maisons de convalescence, dans des asiles, et qu'ils s'en fichent pas mal de leur futur. Ça, c'est briser ce commandement. Et nous allons le voir maintenant expliqué par le Christ lui-même dans le chapitre 7 de Marc. Continuons par exemple au chapitre 7 de Marc, au verset, on commence, Marc, ici on va voir les obligations de continuer de garder ce commandement et le Christ lui-même nous explique comment le faire. Chapitre 7, verset 5 de l'évangile de Marc, chapitre 7, verset 5. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit, « Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » En faisant bien attention ici, c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements des dieux et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien les commandements des dieux pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Il est en train de parler à des adultes maintenant. pas aux enfants comme il nous parle, bien sûr, aussi en ce qui concerne ce commandement. Et puis il dit, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni des morts. Donc un manque de respect aux parents est très grave aux yeux de Dieu, parce que celui qui ne respecte pas ses parents dans ce monde, il n'a pas de respect pour les dieux qui, pour les pères qui s'assoient sur le trône de l'univers. Mais vous vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole des dieux par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Donc Dieu est en train de dire que quand on est dans l'âge productif de la vie, il faut continuer à veiller pour le bien-être de nos parents et de ne pas avoir des excuses pour ne pas les aider. C'est un commandement que le Christ est en train d'expliquer aux adultes maintenant comment ça s'applique. Et nous voyons maintenant comment l'apôtre Paul, il le montre encore de façon d'autres, un aspect encore très intéressant au chapitre au chapitre 5 et de la première épître à Timothée. Voyons comment Dieu explique les obligations des adultes quand ils sont à l'âge productif de la vie. Nous avons déjà vu pour les enfants, pour les jeunes enfants, et nous voyons que ce commandement ne disparaît pas quand on entre dans la vie déjà productive de la vie, à l'étage de maturité de l'homme et de la femme. Il y a un commandement qui continue d'être absolument en force et qu'il faut respecter et pratiquer. Autrement, on perd notre temps en disant qu'on fait partie de la nouvelle alliance. Si on brise un seul commandement, on les brise tous. Donc c'est important de revoir ces choses-là et les obligations. Lisons chapitre 5, verset 3, par exemple, première épître à Timothée, chapitre 5, verset 3. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Et c'est ce que le pharisien faisait en enseignant qu'il fallait, si on faisait une offrande avec ce qu'on pouvait les aider, on n'était plus obligé à veiller pour leur bien-être. Voilà une fausse doctrine. Et il y en a parmi nous aujourd'hui qui ne sont pas assez conscients de leur obligation et de rendre leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. C'est une façon d'honorer Dieu en même temps qu'on honore nos parents. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule. Donc, s'il y a une veuve dans l'église, ce n'est pas l'église qui doit veiller pour son bien-être. Et si elle a des enfants et des petits-enfants, c'est l'obligation des enfants et des petits-enfants d'accomplir ce devoir, de que rien ne leur manque. Voilà l'enseignement que Dieu nous donne ici. Et qui est celle qui demeurait toute seule, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Très dangereux pour une veuve d'aller s'adonner au plaisir comme un moyen de vivre, comme une façon de vivre. Déclare-leur ces choses afin qu'ils soient irréprochables, c'est-à-dire qu'ils apprennent à veiller pour leurs parents. Ils continuent avec ce sujet. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Voilà exactement le devoir que nous avons envers nos parents, que nous ne devons négliger, chers sœurs et frères. Si nous négligeons ça, nous devenons ce devoir que Dieu nous donne dans ses 10 commandements, comme le Christ vient de nous l'expliquer. Si on néglige cet aspect, je répète verset 7 Et puis, enregistrez bien ça dans vos mémoires, chers sœurs et frères, vous qui êtes déjà dans l'âge productif, ne jamais négliger vos parents. Chapitre 5, verset 7, déclare-leur ces choses afin qu'ils soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Voilà, chers sœurs et frères, les devoirs que nous avons envers nos parents. Quand nous sommes des gens dans l'âge productif de la vie, les commandements ne cessent pas. Ils continuent à s'appliquer comme le Christ lui-même nous l'a expliqué et l'apôtre Paul continue de l'éclaircir devant nos yeux. Voilà, ça c'est pour ce commandement-là. Comme je vous dis, c'est important. On a traité une alliance avec le Christ d'obéir ses commandements. Il faut nous examiner ce jour-ci où on célèbre le jour où Dieu écrit ses lois en nos cœurs et en notre esprit, ou en nos esprits. Donc, il est très important de réfléchir là-dessus pour voir les obligations que parfois il y en a qui négligent par ignorance et un péché par ignorance ne cesse pas d'être un péché. Comme le Christ dit, ceux qui font des choses contre la volonté de Dieu à son insu, sans le savoir, ils reçoivent peu de châtiment, disons, un peu de coups. Mais ceux qui le savent, les négligent, la reçoivent beaucoup plus. Maintenant, nous le savons, nous n'avons pas d'excuses. On continue alors à l'Exode, chapitre 20, et on continue avec les prochains commandements. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et puis, la garantie et la bénédiction, quand on a accompli son devoir jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on a fermé les yeux, de nos bien-aimés, de nos parents, et qu'on a accompli cette tâche, on a une paix profonde devant Dieu, une bénédiction qui va se prolonger pour le reste de nos vies. Il n'y a rien qui puisse remplacer ça. On ne peut pas l'acheter. C'est une garantie, c'est une bénédiction de la part de Dieu, que je l'ai vu chez les gens, chez les femmes, chez les enfants qui ont eu cette dévotion, ce dévouement pour leurs parents âgés. Jusqu'à la fin. Voilà, chers sœurs et frères. On continue. Le suivant, c'est « Tu ne tueras point ». Donc, on sait bien qu'avec la nouvelle alliance, comme le Christ est venu, il va magnifier la loi des dieux, ce commandement de ne pas tuer, on voit qu'à une dimension spirituelle, il suffit d'avoir de la rancune, il suffit d'avoir de la haine pour quelqu'un dans l'Église ou même en dehors de l'Église pour être un transgresseur de cette loi. Nous allons le voir démontrer maintenant dans le chapitre 3 de la première épître de l'apôtre Jean, s'il vous plaît, chers sœurs et frères. Reportez-vous là-bas, première épître de l'apôtre Jean. Nous allons voir, première épître, je vais vous dire l'écriture exacte où il faut vous reporter et... Chapitre 3, premier épître de Jean. Chapitre 3, on commence au verset 10. Il dit, « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement ce que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Je répète, quiconque hait son frère est un meurtrier. Donc il est en train de briser l'un des commandements. Il nous identifie comme l'épouse du Christ. S'il brise un seul, il les brise tous. Il n'est pas digne d'être l'épouse du Christ s'il n'y a pas un repentir véritable. Celui quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Voilà, si quelqu'un se laisse aveugler par la rage et par la haine, le ressentiment et la rancune envers quelqu'un, n'importe quelle offense qu'on ait reçue, on est des meurtriers. On est en train de briser cette loi qui nous identifie comme l'épouse du Christ, qu'on a traité avec celui qui nous a rachetés, qui nous a appelés à être son épouse pour l'éternité. Donc, il était absolument essentiel de pardonner du fond du cœur et d'oublier les offenses. Voilà, chers sœurs et frères, le Christ l'a expliqué au chapitre 18 de Matthieu. Il explique comment, et il est partout, si on ne pardonne pas, si on garde rancune, si on a de la haine pour quelqu'un, on est des meurtriers. On n'a pas la vie éternelle en nous, donc on ne va pas entrer dans le royaume des dieux parce qu'il faut les garder tous. Vous le savez bien, chapitre 18 de Matthieu, il dit, et au chapitre 18, verset 21, « Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère ?» Lorsqu'il péchera contre moi, serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un homme qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. D'après la littérature grecque de l'époque, 10 000 talents est une somme impossible de payer. Ça représente le fait que personne ne peut payer pour la vie éternelle et qu'il est impossible de la payer, que ce n'est que le sang du Christ qui peut payer pour notre vie éternelle. Et si quelqu'un doit 10 000 talents, ça veut dire que c'est une dette impossible de payer. C'est ce que les commentaires de la Bible nous expliquent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas payer, mais il lui coûtait sa propre vie. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Le Christ nous a pardonné une dette impossible de payer. Nous sommes tous condamnés à mort. Et il a payé pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Il n'y a pas de somme d'argent, ni tout l'or du monde, ni la fortune la plus grande des plus grands milliardaires du monde peut payer pour la vie éternelle. Essayez d'imaginer quelqu'un des hommes les plus riches du monde, M. Slim ou M. le propriétaire de Microsoft, d'offrir à Dieu de l'argent pour la vie éternelle. Ça fait rire, bien sûr, mais c'est ce que le Christ a fait pour nous. Et parfois, nous nous attachons à des petites offenses en comparaison du fait que le Christ nous a payé pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Il faut avoir ces contrastes en tête, mes chers sœurs et frères, pour savoir le contraste énorme entre la miséricorde de Dieu et parfois notre manque de miséricorde. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon se jetant à terre le suppliait disant « Aie patience envers moi et je te payerai ». Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Voilà ce qui arrive quand nous, on garde des rancunes en notre cœur contre quelqu'un qui nous a offensés, chers sœurs et frères. Et nous, on oublie que le Christ a versé son sang pour payer notre peine des morts. C'est dommage, mais ça arrive souvent dans l'Église. Et ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler le serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, Je t'avais remis en entier la dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? Et son maître irritait le livrant au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon père, c'est-à-dire là, a dû payer avec sa propre vie. C'est une parabole, mais c'est ce que le Christ veut nous enseigner ici. C'est ainsi parce que l'apôtre Jean nous dit, celui qui garde de rancune et de la haine en son cœur contre quelqu'un, il n'a pas la vie éternelle en lui, il est condamné à mort. Père céleste, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Rappelez-vous que Dieu ne se souvient plus de nos péchés, comme on l'a lu dans la première partie du sermon. Il oublie. Comment peut-on faire ça? Il y en a qui se posent la question. Comment puis-je pardonner de tout mon cœur? C'est très simple, chers sœurs et frères. Si quelqu'un vous a offensé, si quelqu'un nous a offensé, il ne faut pas recréer la scène. L'imagination est la folle de la maison, comme disait Blaise Pascal. Il ne faut pas lui laisser la porte ouverte. L'imagination peut recréer des effets spéciaux plus puissants que ceux de Hollywood et recréer les scènes, et puis ça nous fait bouillir le sang, et la haine continue, et la blessure est ouverte. Mais si on rejette comme n'importe quelle autre tentation, c'est une tentation de meurtre, et comme une tentation d'adultère, comme nous allons le voir dans un moment, il faut la rejeter. Il faut amener chaque pensée captive à l'obéissance du Christ. C'est 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Il faut veiller sur nos pensées parce que Dieu a écrit ses commandements dans notre esprit, aussi bien que dans notre cœur. Donc, quand on a été offensé, il ne faut plus laisser la porte ouverte pour que le diable commence à nous faire revivre l'offense. Il faut la rejeter de tout cœur, en pensant que le Christ a rejeté de tout cœur les offenses que nous avons faites tout au long de notre vie. Il y a un moment, quand on est déterminé, quand on a pris la décision de ne plus le laisser nous influencer ou influer notre conscience, si on le rejette continuellement de tout notre cœur, il y a un moment où on commence à l'oublier. Et après, c'est comme si rien n'était jamais arrivé et la blessure est guérie et on a la paix. C'est pourquoi le proverbe dit, le cruel, il se tourmente lui-même. Donc voilà une des façons dont nous devons apprendre à pardonner du fond du cœur. C'est oublier, c'est rejeter l'offense, le souvenir de l'offense continuellement jusqu'à ce qu'il s'endort dans la nuit des temps, chers sœurs et frères. Et la mémoire devient, comme quelqu'un disait, la faculté d'oublier aussi, comme on peut avoir la faculté de se souvenir ou de se rappeler des choses, on peut utiliser avec l'Esprit de Dieu, mettre à mort de mémoire, de souvenirs qu'il faut mettre à mort, il faut les éliminer pour qu'ils ne viennent pas troubler notre esprit. Et c'est comme ça que le Christ vit en nous, qui nous donne la puissance de vaincre. Donc, voilà, ça c'est un aspect de commettre le meurtre, d'être des meurtriers, si on n'oublie pas du fond du cœur les offenses. On ne les cultive pas, on les rejette jusqu'à ce que Dieu vienne guérir nos cœurs. Il y en a qui, les expériments de la psychiatrie, je ne sais plus comment on prononce ça, ils savent une fois qu'un patient, qu'une personne, prend la décision de pardonner n'importe quelle offense, n'importe la grandeur de l'offense. Une fois que la personne décide, même des femmes qui ont été violées, je ne veux pas donner d'exemple, mais des offenses horribles, si on n'oublie pas, la blessure est toujours ouverte, elle ne se guérit pas. Mais une fois que la personne sous traitement psychologique prend la décision de pardonner, la sérotonine commence à être produite dans le cerveau et ça produit du bien-être intérieur. Les gens qui ne pardonnent pas sont des gens qui vivent dans l'amertume. Les gens qui pardonnent ont le cœur joyeux parce qu'il n'y a pas de choses qui viennent troubler leur esprit parce qu'ils ont su appliquer le principe divin que Dieu nous donne dans sa parole, le pouvoir du Saint-Esprit. Donc, continue maintenant avec le prochain commandement, chers sœurs et frères. Donc, ça c'est pour le meurtre. Et puis, tu ne tueras point, verset 13. Exode 20, verset 14, tu ne commettras point d'adultère. Nous savons bien que le Christ vous dit, il y a beaucoup d'aspects là-dedans. Et puis, les pays francophones sont assez ouverts avec cette histoire. Vous savez bien, c'est dommage, les leaders sont des exemples désastreux pour la population. Comme M. Clinton l'a été pour les États-Unis, il y en a qui le sont aussi pour leur propre peuple, en donnant un exemple désastreux en ce qui concerne l'adultère, en prenant des femmes qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Donc, regardons au chapitre 5 de Matthieu, où le Christ parle de façon assez dramatique comment obéir ses commandements dans la Nouvelle Alliance. Chapitre 5, verset 27 de Matthieu. Voilà, 5, verset 27. Je ne peux pas tout couvrir aujourd'hui, mais on va voir donc des aspects très important au sujet de cette loi et comment elle est appliquée d'après l'enseignement du Christ pour pouvoir être son épouse. Comment, qu'est-ce qu'il demande de ceux qui sont ses disciples, lesquels il va marier comme son épouse pour gouverner le monde. Chapitre 5, verset 27 de l'Évangile de Matthieu. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras point d'adultère. » Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voilà, chers sœurs et frères, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Il faut être radical. Il ne faut pas faire de la coquetterie avec le péché, chers sœurs et frères. Une fois qu'on détecte, la conscience détecte très facilement et très rapidement si on est proche de Dieu. Et cette loi est vivante en nos cœurs et en notre esprit. Quand on est en train, on est sur le point de briser cette loi. Donc, cette alarme spirituelle, on doit en faire attention tout de suite. Être radical. Parce qu'il le dit dans des termes très, très, disons, dramatiques. Si ton œil droit et pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Donc il ne faut pas cultiver, il ne faut pas faire de, comme je vous dis, de la coquetterie avec le péché. Il faut être radical, parce qu'en désirant une femme ou le mari de quelqu'un d'autre, on est en train de briser cette loi, et on va démontrer au Christ qu'on n'est pas fidèle en ce qui est petit, et il y a les dangers, le Christ va compter ça comme une infidélité. Si on ne se répand pas du fond du cœur, on devient radical et ça va montrer au Christ qu'on n'est pas qualifié pour être son épouse pour l'éternité. Si on n'est pas fidèle en ce qui est petit, ici, maintenant. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Voilà la façon radicale dont le Christ nous enseigne à nous nier nous-mêmes, à prendre sa croix qui met à mort toutes les transgressions ou les tendances à la transgression de la loi de Dieu pour être fidèle au Christ maintenant et pour l'éternité. Et je vous dis une chose, chers sœurs et frères, d'après les informations que j'ai pu récolter, la pornographie commence à devenir peut-être le 90% de l'activité de toute l'Internet. C'est incroyable, l'activité de la pornographie. Et non seulement la pornographie, disons, des hétérosexuels, mais homosexuels, et même la bestialité, chers sœurs et frères. On arrive au comble de la méchanceté. Le Dieu, il a fait vomir, la terre a vomi les Cananéens parce qu'ils pratiquaient toutes ces choses-là. Je vous dis une chose, si quelqu'un regarde une femme, même si c'est sur un écran, Il est déjà en train de commettre la fornication s'il n'est pas marié. Il est en train de commettre l'adultère s'il est marié. Et le danger, je viens lu, je n'ai pas porté aujourd'hui, je n'ai pas retrouvé l'article dans le Nouvel Observateur. C'est intéressant, c'est des gens qui sont très libéraux. Mais ils connaissent très bien le problème de l'obsession, de la cyberpornographie. Ils savent que ça devient une maladie, une obsession qui détruit, un esclavage. Ils l'appelaient eux-mêmes un esclavage. C'est intéressant de voir ça dans le langage français qui est assez libéral en ce qui concerne la sexualité. Mais on arrive à des extrêmes. Mais nous, on ne peut même pas toucher au début de la convoitise des images. Il faut fuir de la fornication. Et il faut plutôt se sortir l'œil et le jeter loin de soi pour ne pas transgresser la loi des dieux, pour pouvoir entrer dans le royaume des dieux. Si on n'est pas radicaux, on ne pourra pas vaincre. C'est la seule façon de le faire. On est envahi, on est inondé de pornographie. Il est en train de pervertir l'âme du monde entier, par tous les continents, chers sœurs et frères. La prochaine revue, il y a un article de M. McNair, qui a déjà apparu en anglais, qui viendra bientôt en français, sur la pornographie et le mal que cela cause, parce que ça produit l'addiction. Donc ceux qui aiment l'argent, ils se servent de la pornographie pour faire de l'argent et corrompre l'esprit des êtres humains à tous les niveaux et dans tous les genres de perversions possibles. Donc, chers sœurs et frères, si nous, on est les seuls de la terre, et si nous, on ne s'écarte pas de ces choses de façon radicale, on n'entrera pas dans le royaume des dieux. On ne peut plus être le sel qui va garder, qui va préserver. Donc, le sel va perdre sa saveur. On ne sera pas digne d'être utilisé pour Dieu, pour être la lumière du monde. On va se prostituer comme les restes du monde. Donc, voilà, pour ne pas commettre l'adultère et la fornication, ça fait partie de ces commandements, chers sœurs et frères. Donc, continuons maintenant pour que nous soyons... Je voulais vous parler de ces choses-là parce qu'on est complètement, continuellement, on est sous la menace de ce monde complètement pourri, chers sœurs et frères. Et si nous, on se laisse polluer, on se laisse souiller par ce monde, on ne sera pas l'épouse du Christ. Donc, il faut avoir ce zèle absolu. Et d'être vouloir, disons, pourquoi il emploie des termes tellement dramatiques, c'est couper la main, il ne veut pas dire ça littéralement. Mais il faut être radical pour pouvoir vaincre cette tendance de cette force que Dieu a mise dans l'être humain pour unir un mariage, mais que le diable utilise pour le détruire. Donc, voilà, très important. Vous voyez, chers sœurs et frères, il faut nous examiner maintenant, parce que le temps s'approche. On continue donc, chapitre 20 de l'Exode. Il dit, « Tu ne commettras point l'adultère. » Verset 15, « Tu ne déroberas point. » Tu ne déroberas point. Nous savons que l'une des façons la plus commune de dérober ou de voler ou de commettre du larcin, c'est envers Dieu lui-même. Et vous le savez, celui qui n'est pas fidèle en payant ses dîmes, il est en train de montrer à Dieu que l'argent est plus important que lui. Donc, c'est l'idolâtrie. L'apôtre Paul le dit clairement dans Éphésiens chapitre 5. Je vous le lire. Lisez-le. Si on aime l'argent au point où on vole ce qui appartient à Dieu qui nous donne tout, même l'oxygène, l'air qu'on respire, et tout vient de lui, rien ne pourrait exister. Il n'y aurait pas de nourriture si Dieu n'avait pas créé le monde, chers sœurs et frères. Donc, les gens qui ne payent pas leur dîme, ils empêchent Dieu de les bénir. C'est la chose la plus stupide qu'on peut faire, parce que Dieu nous donne le droit de le mettre à l'épreuve pour voir si on sera béni ou non. Et l'assurance et la paix qu'on a quand on est fidèle en payant ses dîmes, chers sœurs et frères, en étant fidèles dans les choses qui sont petites, nous donne une paix profonde et puis la garantie que Dieu va nous bénir. Lisons-le dans Malachie, vous le voyez, vous le connaissez bien, c'est bien sûr le dernier des livres avant la Nouvelle Alliance, mais nous savons que le Christ n'est pas venu abolir la loi, qu'il a parlé de la dîme aussi dans le chapitre 23 de Matthieu qui n'a pas aboli. Et c'est comme ça que l'Église continue de faire l'œuvre de Dieu. Donc, au chapitre 3 de Malachie, nous allons voir l'avertissement de Dieu. Chapitre 3, verset 6, il dit, « Je m'approcherai de vous pour le jugement. » Et puis, lisons verset 6, « Car je suis l'Éternel et je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Parce que Dieu est miséricordieux et il est patient. Depuis les temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Si on brise un seul commandement, chers soeurs et frères, on est éloigné de Dieu. Si on est en train de dérober ce qui appartient à Dieu, on est coupé de lui. Il y a quelque chose de plus important pour nous, l'argent que Dieu lui-même. C'est de l'idolâtrie, comme je l'avais dit, c'est écrit par l'apôtre Paul, vous le voyez, la convoitise, c'est de l'idolâtrie. Je ne vais pas y aller à cause du temps. Et puis, dit à l'Éternel des armées, « Et vous dites, en quoi devons-nous revenir ?» Verset 8, Malachie, chapitre 3, verset 8. « Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. » Voulez-vous être maudit, chers soeurs et frères? Il y a des gens qui s'attachent un petit peu d'argent et la vision est tellement courte qu'ils ne voient pas que ce sont des bénédictions, des malédictions qu'ils entassent sur leur tête. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière a porté à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu ne veut pas que nous l'éprouvions, et puis si nous donne permission, c'est-à-dire, éprouvez-moi pour voir si je vous bénis. Chapeau, il ne faut pas perdre cette opportunité, cette occasion merveilleuse d'être béni par Dieu, d'avoir cette assurance, cette paix profonde que produit l'accomplissement de ses commandements, et de savoir que Dieu est de notre part, et que le juste n'aura pas faim. C'est vraiment, je répète, je m'excuse, mes chers soeurs et frères, la chose la plus stupide, ce n'est pas payer à Dieu ses dîmes et d'attacher ses mains, pour ainsi dire, pour qu'il ne nous bénisse pas. Il dit ici, « Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. » Donc Dieu est prêt à nous bénir, à nous donner cette paix intérieure profonde d'avoir accompli nos devoirs envers lui, d'être fidèle à ce qui est petit. Autrement, on est des idolâtres. L'argent devient notre idole. Et on a un autre Dieu devant Dieu. Et puis on brise les commandements de dérober ce qui appartient à Dieu. Et on s'empêche soi-même d'avoir la paix d'esprit, la bénédiction, d'avoir la paix de Dieu, d'avoir ses bénédictions spirituelles et physiques. Il ne nous promet pas de nous faire des milliardaires, mais rien ne va nous manquer quand nous sommes fidèles en ce qui est petit, même si c'est très peu, comme la veuve qui a donné tout ce qu'elle avait, les moindres pièces de monnaie. Elle l'a donné parce qu'elle croyait en Dieu. Et elle l'a donné plus que tous les autres parce qu'il a donné tout ce qu'elle avait, comme une offrande. Voilà, donc Dieu, il voit ça comme le Christ l'a vu quand cette veuve a déposé son offrande dans les trésors du temple. Le Christ l'a remarqué, il a parlé aux disciples. Donc il a été énormément béni, sans doute jusqu'à la fin de sa vie, à cause de son amour et de son dévouement pour Dieu. Donc voilà, c'est une façon de dérober. Mais aussi, les gens qui ont l'habitude de voler, voici qu'on doit avoir, il doit avoir un changement profond. Il y a des gens qui empruntent de l'argent qui ne payent pas. Dieu, il ne se plaît pas dans des attitudes comme ça, ces manques d'honneur et d'intégrité. Voyons par exemple au chapitre 37 des Psaumes, ce que Dieu dit de ceux qui empruntent de l'argent qui ne payent pas. Parce qu'il y en a qui, il faut rembourser, chers soeurs et frères. Il faut être honorable. Il faut être des gens qui accomplissent leurs paroles. Si on apprend de l'argent de quelqu'un, il faut le payer. Il ne faut pas se cacher, avoir des excuses. Dieu hait ces choses-là, ces attitudes, ce manque d'intégrité, de transparence. C'est une offense aux yeux de Dieu. Vois ici, par exemple, le psaume 37. Psaume 37 et verset 21. Psaume 37 et verset 31. Voici comment Dieu décrit les gens qui n'ont pas de parole pour payer, pour rembourser ce qu'ils ont emprunté. Donc, personne comme ça n'a pas d'honneur. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Voilà, le méchant emprunte et il ne rend pas. Alors, et puis, le changement doit être tel. Il ne faut pas simplement se garder de dérober et de voler ce qui appartient à autrui. D'ailleurs, la façon dont nous travaillons doit être honnête. Il ne faut pas voler au chef le temps et l'argent qu'il nous paye pour le travail. Il y a beaucoup de façons d'expliquer ça, mais je ne vais pas m'attarder dans tous les aspects. Mais, par exemple, celui-ci est très important. Reportez-vous à Éphésiens, s'il vous plaît, pour vous voyez que le changement que Dieu espère de nous, c'est un changement radical. Au chapitre 4 des Éphésiens, et verset 28. Éphésiens 4, verset 28. Voici le changement que Dieu espère de ceux qui vont être son épouse, qu'on devient productive, parce qu'on est béni. Une fois qu'on obéit Dieu en payant les dîmes, même si c'est très petit, on commence à être fidèle en ce qui est petit. Il va nous bénir. Et ce qu'il va se passer quand on arrête de voler à Dieu, au chapitre 4 des Éphésiens, et verset, et je vous l'avais dit, 28. 4, verset 28, voici ce que Dieu dit de ceux qui avaient l'habitude de dérober, de voler. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Il faut se repentir, il faut arrêter, il faut commencer à être fidèle envers Dieu et envers notre prochain. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Dieu ne veut pas que nous soyons des gens passifs, il veut que nous nous transformions dans des sources de bénédictions pour les autres. Donc ces commandements n'est pas dérobé, il faut devenir productif pour avoir de quoi partager à ceux qui en ont besoin. Donc continue alors avec le commandement suivant. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. C'est le neuvième. Tu ne porteras pas. Parfois, on fait des spéculations sur la conduite d'autrui. Et on ne se rend pas compte qu'on est en train de faire un jugement. On fait des commentaires que les autres vont prendre comme une réalité. Et voici qu'on commence, on génère des rumeurs, des fausses rumeurs. C'est très commun. Moi-même, je dois me repentir de ça. Parfois, on commence à spéculer sans savoir toutes les circonstances et avoir des spéculations sur la conduite de quelqu'un. Et puis, on fait des commentaires qui deviennent des rumeurs et qui deviennent vraiment des faux rumeurs qui détruisent. Donc, c'est très important, chers sœurs et frères. Pour cela, je veux que nous vous reportiez au psaume 101, s'il vous plaît. Psaume 101. Et là, nous allons voir ce que Dieu pense de cette... Et vous pouvez lire dans les proverbes, il y a au-delà des 70 proverbes qui parlent des lèvres, de la langue, de la bouche, continuellement. C'est très important pour Dieu que nous soyons impeccables, parce que de toute parole qui sortira de nos bouches, nous devrons rendre compte. Chapitre 101 de Psaume. Nous allons lire ce que Dieu dit pour que, en avertissement, de David, psaume, je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité dans mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Voilà son zèle pour obéir Dieu, qui doit être aussi le nôtre. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant, celui qui calomnie. Écoutez bien ça. Ça, c'est le neuvième commandement, que nous devons être très, très sûrs de garder la porte de nos lèvres, chers sœurs et frères. Celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. La fraude, c'est le mensonge dans d'autres traductions. Celui qui se livre au mensonge n'habitera pas dans ma maison. Voilà, il ne sera pas l'épouse du Christ. Le diable, le père du mensonge. Et Dieu est le mensonge. Et nous devons être absolument zélés pour la vérité au fond du cœur. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays. Ça sera à partir du retour du Christ, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Ça, c'est pour le neuvième commandement. Et maintenant, chers sœurs et frères, pour le dixième, on va être bref. Et vous le savez, l'explication se trouve dans Jacques chapitre 4. Toutes les guerres de l'histoire humaine ont été générées par le fait que les hommes ont brisé, sous l'influence du diable, le dixième commandement. Tu ne convoiteras pas la maison de ton frère, ni les femmes de ton frère, ni la femme de ton frère, de ton voisin. Donc, regardons et Jacques chapitre 4 pour conclure, chers chers frères. Voici, d'où viennent les luttes, chapitre 4, verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Voilà, c'est briser le dixième commandement. Convoitez ce qui n'est pas licite pour nous. Vous êtes meurtriers et envieux. Donc, on brise un commandement, puis on commence à briser les autres. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voilà la convoitise que Dieu interdit dans le dixième commandement. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est l'inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Voilà, chers sœurs et frères, une petite, disons, un petit compte rendu des 10 commandements, de l'alliance qu'on a traitée avec le Christ, que nous devons y réfléchir en ce jour-ci, quand elles ont été écrites, ces commandements ont été écrits en nos cœurs et en notre esprit pour nous préparer à la vie éternelle, comme l'épouse fidèle du Christ. À bientôt, chers sœurs et frères.